Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Les murs ont des oreilles, l'émission anticarcérale sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Donc Les murs ont des oreilles, vous pouvez nous retrouver le troisième mercredi de chaque mois sur Radio Kaleidoscope de 19h à 20h. Donc comme d'habitude, on parle de sujets autour de la prison et de l'anticarcérale. Ce soir, on va aborder la question des prisonniers et des prisonnières transsexuelles, mais aussi on va parler des longues peines. Et enfin, on fera un petit teaser sur ce qu'on va venir voir le mois prochain, dans un mois. Donc pour commencer, aujourd'hui on voulait parler des transsexuels en prison parce qu'il y a 2 mois maintenant, le 22 janvier, il y a eu une journée de solidarité internationale avec les prisonniers et les prisonnières transsexuelles. Et du coup, on voulait un peu parler, on s'est dit, bah tiens, c'est l'occasion d'en parler, on n'avait pas eu le temps d'en parler aux dernières émissions, donc voilà. Donc juste un petit mot sur cette journée, c'est quoi ? Et ben du coup, c'est une journée c'est un projet indépendant qui a été initié par un prisonnier trans et qui est fait et qui est toutes les actions qui sont faites soit par des prisonniers trans, soit par des ex-prisonniers trans, soit par des soutiens aux personnes qui sont en prison un peu partout dans le monde. Et là, à la base, c'était un projet qui a été initié par Marius Masson, qui est un prisonnier trans au Texas. Et qui était un anarchiste transgenre qui a été incarcéré et qui a purgé une peine de 22 ans de prison pour des actes d'éco-sabotage. Et du coup, c'est lui qui a été à l'initiative de cette journée et qui fait que depuis, il est journée régulièrement. Et donc, si vous voulez plus d'infos par rapport à Marius Masson, vous pouvez retrouver des informations sur ce site internet supportmariusmasson.org. Donc là-dessus, vous pouvez trouver toutes les informations. Et donc lors de cette journée, en France, il y a eu plusieurs actions, principalement des ateliers d'écriture dans différents lieux. Et entre autres à Paris, il y a un atelier d'écriture qui a eu lieu à la Mutinerie, qui a été faite par l'association Acceptes T, qui fait entre autres dans ce qu'ils font du lien avec les prisonniers trans qui sont, les prisonnières trans qui sont dans la prison de Fleury. Parce qu'à Fleury, il y a un quartier qui a été mis en place donc dans la prison pour hommes, pour les femmes trans. Donc il y a un quartier qui a été mis spécifique où elles sont quelques-unes dans ce quartier-là. Et donc là, l'association proposait de faire un atelier d'écriture pour pouvoir transmettre les courriers aux prisonnières trans qui sont à Fleury. Et du coup, ils ont une adresse. Du coup, je vais vous donner l'adresse si jamais vous avez envie de les contacter. C'est toujours possible, je pense, d'écrire. Même si l'action n'est plus en cours maintenant, c'est toujours possible d'écrire si vous avez envie d'envoyer des lettres de solidarité ou de soutien. Donc, c'est l'association Acceptes, commission prison, au 39 bis, rue Boulevard Barbès, 75018 à Paris. Voilà. Et donc, juste en 2-3 mots, 2-3 personnes un peu, des personnes trans qu'on a un peu entendu parler. Il y a 2 personnes là dont je voulais parler juste avant de passer à la suite et dont il y a une petite citation des personnes. La première, c'est CC McDonald, donc qui avait écrit « Il voulait me forcer à être quelqu'un que je n'étais pas. Il voulait que je me délégitimise en tant que femme trans. J'ai résisté. En tant que femme trans, en tant que femme trans noire et fière, je n'allais pas laisser un système me délégitimer, m'hypersexualiser, puis m'arracher mon identité. » Et CC McDonald, c'était une femme trans afro-américaine et militante LGBTQI qui a été incarcérée pour avoir tué en état de légitime défense un agresseur qui était transphobe, raciste et qui l'avait attaqué. Et du coup, elle a fait 3 ans de prison et qui maintenant elle est sortie là, il y a 2 ans à peu près maintenant, 13 janvier 2014, avec il y avait une grosse solidarité, des gros mouvements de solidarité. Et pareil, du coup, si vous voulez un peu des infos, il y a un site internet supportcc.wordpress.com qui du coup il y a un peu toutes les infos de tout ce qui s'est passé, des arrestations, du procès, etc. et puis de la mascarade aussi du procès autour de ça, quoi. Et enfin, la dernière personne, notre personne dont je voulais parler, c'était Chloé Villain qui a été donc cette fois ça se passe en France, qui a été incarcérée au centre de détention de Caen et qui a eu tout un parcours très long, donc qui a fait 12 ans, je crois, de prison. Elle est sortie en avril là, 2014, et qui, pendant tout son parcours de prison, a essayé de pouvoir faire une transition et du coup d'avoir, de pouvoir avoir des hormones, de pouvoir être opéré. Et du coup, ça a été un parcours hyper compliqué qui lui a été forcément refusé tout le temps. Et du coup, qu'elle a décidé de s'opérer elle-même puisque du coup, l'administration pénitentiaire refusait de le faire. Et du coup, il y a eu une interview il y a plusieurs années sur Les Murs ont des oreilles. On a eu une interview téléphonique avec elle. Et du coup, si vous voulez écouter l'émission, c'est possible de l'écouter sur le blog des Murs ont des oreilles. Donc, c'est lesmursontdesoreilles.noblogs.org. Et l'émission, du coup, c'est l'émission du 15 mai 2015. Pardon, je vous dis des bêtises, excusez-moi. C'est l'émission du 16 octobre 2013. Et du coup, c'était une émission voilà, qui retransmettait l'interview de Chloé dans laquelle elle expliquait son parcours, les problèmes rencontrés, certes avec les prisonniers, mais surtout avec l'administration pénitentiaire, et qui expliquait que certes, il y avait des problèmes avec les prisonniers parce que on a envie dans un monde transphobe, donc dans la prison, c'est pas non plus exempt de ça, mais que surtout, des pressions, des insultes, tout ça lié plutôt au maton. Et du coup, donc elle parle de tout ça dans son interview. Voilà. Et donc on va commencer par lire, à plusieurs moments dans l'émission, je reviens sur un truc, on va lire des petits extraits qui sont des extraits là qu'on a pris d'une brochure qui s'appelle « Femmes trans en prison ». Oui. Et dans cette brochure, il y a une retranscription d'un film qui s'appelle « Cruel and Unusual ». Désolé mon accent. du coup, qui est un film américain qui donne la parole à des prisonniers trans, des prisonnières trans, qui sont soit encore en prison, soit qui sont sorties. Et donc là, il y a des retranscriptions de choses qui ont été dites. Donc là, on va en lire quelques-uns au fur et à mesure. Et juste derrière, on va lire un article qui s'appelle « La double peine des femmes trans en prison », qui est un article assez récent là, qui, sur les personnes trans en prison en France, à Fleury. Et du coup, juste avant, on lit deux petits extraits de Cruel and Unusual.
Alors, donc ça, on a trois extraits. Donc, le premier, c'est de Ashley, qui est une prisonnière trans. « Je me considère comme une femme dans une prison pour hommes. Je me réveille souvent et je regarde autour de moi, et je vois tous ces hommes et je me demande ce que je fais là. Je ne suis pas censée être là. » On a Linda Thompson, ancienne prisonnière trans. « 3 jours après être entrée en prison, le directeur est venu dans ma cellule et m'a dit « Tu as un pénis ou un vagin ?» J'ai dit « Un pénis ». Il m'a dit « Voyons voir ». Alors j'ai dû lui montrer. Et puis il a dit « On ne va pas te soigner ici. On ne reconnaît pas le transsexualisme comme une maladie à prendre en compte. Il est plus que probable que tu finisses par te tuer. » Il a eu un sourire narquois, il est sorti et voilà. Et je me suis dit « Super, je suis dans la merde, je suis vraiment jusqu'au cou. » Et Ophelia Delonta, prisonnière trans, « J'ai su que j'étais différente à l'âge de 7 ans. J'étais née petite fille, mais dans un corps de garçon. » Quand j'ai su m'habiller et être moi-même, c'était merveilleux d'être la petite fille que j'étais.
Et donc on enchaîne avec l'article « La double peine des femmes trans en prison ». À Fleury-Méringis, un quartier leur est réservé. Insultes, moqueries lors des fouilles, maquillage prohibé, refus de soins, Catalina, Natalia et Afida, ex-détenues, racontent le quotidien difficile de femmes trans en prison.
Je n'aurais jamais imaginé que j'allais atterrir en prison.
Installée bien au chaud au fond d'un bar PMU du 18e arrondissement, Catalina, les cheveux teints d'un blond peroxydé, stylo bic en main, fait un croquis de la maison d'arrêt de Fleury-Méringis. Originaire d'une grande ville du centre de l'Argentine, cette Latina d'une quarantaine d'années, travailleuse du sexe, a passé presque un an de sa vie derrière les barreaux. Des mois de calvaire dont elle garde encore les séquelles psychologiques. Des pleurs incontrôlables, la porte d'une porte verrouillée.
La prison, c'est ce qu'il y a de pire, lâche-t-elle, à plusieurs reprises. Et rien n'est fait pour les personnes transgenres.
Car au-delà d'un français très approximatif, Catalina est trans et séropositif au VIH et au VHC, le virus de l'hépatite C. Une double, voire une triple peine quand on est placé en détention. Bâtiment Détroit. Condamnée pour exhibition sexuelle, puis incarcérée en décembre 2012, Catalina raconte avoir été placée dans un quartier spécifique, à part pour les trans et les homos.
Un quartier « protégé », entre guillemets, dédié d'une façon générale aux personnes susceptibles d'être fragilisées en détention.
Assure le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire. Mais situé au cœur de la maison d'arrêt pour hommes, au 4e étage du bâtiment Détroit, nom qui, en espagnol, résonne comme « détresse ».
On m'a remis des vêtements, des produits d'hygiène et un rasoir pour hommes.
Poursuit l'ex-détenu, sur le moment désemparé. Le tout sous le regard de surveillants et non de surveillante, alors qu'en théorie, selon le ministère, des mesures existent pour que
l'apparence physique de la personne détenue concernée soit prise en compte pour déterminer le sexe du personnel pénitentiaire chargé de la mise en œuvre de la mesure.
Cette scène, Natalia, 35 ans, détenue 14 mois à Fleury-Mérogis entre 2013 et 2014 pour proxénétisme, et Afida, en liberté conditionnelle après 10 mois de détention pour récidive de défaut de permis, l'ont aussi vécu au moment de leur incarcération, le plus souvent sans vraiment comprendre ce qui leur arrivait.
« On m'a d'abord mise quelques semaines dans la prison pour femmes »,
confie Afida, la vingtaine, qui vit la débrouille depuis qu'elle a quitté le domicile de ses parents à 13 ans.
« Puis, on m'a transférée au Détroit, sans que je sache pourquoi. »
Natalia, elle, aussi originaire d'Argentine, tient son explication.
« Pour te placer, il vérifie que tu es bien opérée. »
Cette opération, dite de réassignation sexuelle, permet officiellement de changer d'état civil. Aucune des trois femmes ne l'a pour l'instant subi. Des brimades et des embrouilles. Dans leur quartier spécifique, Catalina, Natalia et Afida se sont très vite senties isolées et abandonnées.
« On était coupées du monde. On nous faisait comprendre qu'on était à part »,
regrette Afida. Aujourd'hui, elles mettent en cause des conditions de détention qu'elles jugent discriminantes par rapport aux autres détenus, comme l'interdiction d'avoir accès au terrain de sport, et ce, en raison de leur transidentité.
« En 10 mois, je n'ai jamais touché la terre ferme »,
raconte Afida. Avec Natalia, son ancienne voisine de cellule, elles décrivent en guise de promenade une pièce à part, sale, recouverte de crottes et de cadavres de pigeons, et aussi spacieuse que la salle principale du traiteur chinois dans lequel nous poursuivons la conversation. Amélia Morino, ancienne bénévole à Fleury-Mérogis du Génépi, l'asso étudiante qui travaille sur la réinsertion des détenus, confirme.
C'est une pièce de 30 mètres carrés dont on a retiré le toit.
À Fleury, le quotidien de ces femmes trans a aussi été ponctué de commentaires transphobes, d'insultes et de brimades.
Les gardiens savent que tu es trans, mais ils t'appellent monsieur et ne respectent pas ton genre. C'était des moqueries tous les jours. Une infirmière qui te dit que tu es malade et qu'il faut revenir à la raison. Un surveillant qui fait exprès que tu croises un autre détenu pour voir comment tu te fais insulter, etc.
Soutient Afida, pas vraiment de nature à se laisser marcher sur les pieds. Lors de sa détention, dans les couloirs ou lors des transferts, elle s'embrouille régulièrement avec les autres détenus, et là encore, les insultes graves le fusent. Au bon vouloir de l'administration. Impossible également de cantiner du maquillage, des produits de beauté ou un fer à lisser, poursuit la jeune femme.
Pour me maquiller, j'utilisais les crayons de couleur des ateliers de dessin.
Se souvient-elle. L'accès à certains ateliers, les vêtements de femmes, les soins spécifiques et les traitements hormonaux leur ont aussi été accordés, ou pas, au bon vouloir de l'administration.
J'étais la seule à avoir accès aux hormones. J'ai toujours eu accès à un médecin, mais la majorité n'avait pas cette chance.
Confie Natalia. Arrivée en 2006 à Paris, après 7 ans de prostitution à Buenos Aires, la jeune femme a très vite compris les codes de l'institution carcérale, à la différence de certaines de ses anciennes codétenues, qui ne parlaient pas un mot de français.
J'ai aussi été privilégiée par rapport aux autres, livre Catalina, mais parce que je respectais les règles.
Elle bénéficie d'un suivi médical qu'elle juge correct. En revanche, malgré ses demandes répétées, Catalina n'a jamais pu consulter un hépatologue ou d'un endocrinologue et donc se voir prodiguer les soins qu'elle réclamait. En décembre 2013, Catalina sort d'ailleurs très affaiblie de Fleury-Mérogis. Elle est transférée à la Pitié-Salpêtrière où on lui diagnostique un cancer lymphatique.
J'avais la foi et je savais que j'allais guérir.
Mais le refus de soins aurait pu lui être fatal. C'est Pierre Afrène. Ont-elles observé des évolutions dans leur prise en charge par l'administration de Fleury ? En juin 2010, un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté préconisait déjà de garantir un certain nombre de droits à l'information et à l'accès aux soins ou à la dignité des personnes trans incarcérées pour améliorer leur prise en charge et leurs conditions de détention.
Par le passé, il y a eu des problèmes, notamment lors des fouilles aléatoires en cellules. Mais aujourd'hui, l'administration pénitentiaire porte quand même une attention particulière à ces personnes. Une cantine spéciale a été mise en place.
Observe de son côté le bénévole du Génépi, contacté par Street Press. Selon Olivier Pedro Rosé, le porte-parole adjoint du ministère de la Justice, la prise en charge est aujourd'hui
individualisée grâce à une identification au cas par cas des difficultés éventuelles rencontrées pour chaque détenu. Les agents qui opèrent dans le quartier où se trouvent les détenus transgenres sont volontaires et dédiés à ce secteur. Ils répondent à un appel d'offres lorsqu'un poste se libère et sont préalablement reçus par la direction pour un entretien.
Affirme encore le ministère. Mais entre la théorie et la pratique carcérale, il y a souvent un gros fossé. Et les anciennes détenues ont des avis fort contrastés. Natalia est la plus optimiste.
on a quand même eu accès à une promenade, aux associations qui nous rendent visite, aux cours de français ou à des ateliers de peinture. Les choses ont un peu avancé à Fleury pour les trans, et on sait que c'est pire à Fresnes.
En liberté, avec un bracelet électronique à la cheville depuis juin dernier, Afida est plus catégorique, notamment envers le personnel de la maison d'arrêt.
En un an, rien n'a changé.
Giovanna Ricon, directrice d'Accepté, une association trans habilitée pour apporter un soutien social et psychologique aux détenus transgenres de Fleury-Méringis, s'interroge également sur leurs conditions de détention.
Avant la création d'un quartier adapté, il faudrait peut-être une reconnaissance des spécificités en matière de genre et de santé,
propose-t-elle. Faut-il maintenir un quartier spécifique pour les détenus trans non opérés ou qui n'ont pas obtenu leur changement d'état civil, ou faut-il une incarcération d'office dans le quartier des femmes ? Le ministère contacté par Street Press campe sur le critère de l'opération irréversible.
L'administration pénitentiaire tient compte des modifications physiques irréversibles liées au processus de réassignation sexuelle médicale pour déterminer l'affectation en quartier femmes, sans attendre la prise en compte de cette modification d'état civil, à l'état civil.
En revanche, pour Natalia, la solution est peut-être du côté de son pays natal.
Là-bas, quand tu n'es pas opéré, mais que tu as des documents d'identité conformes à ton genre, une formalité pour les trans depuis la loi 2012 qui permet la modification de l'état civil par simple déclaration, on te met avec les femmes.
Sollicité par Street Press pour avoir des plus amples informations, l'administration pénitentiaire et la direction de Fleury-Méringis nous ont renvoyé vers les réponses du ministère de la Justice. Entre Boulogne et Pôle emploi, la peine purgée, Natalia, Catalina et Afida tentent désormais de se reconstruire.
Sortir de prison, c'est une chose. Revenir à la réalité en est une autre.
Philosophe Natalia. Le jour où elle a quitté Fleury, elle raconte même s'être perdue, gare du Nord, complètement désorientée, elle enchaîne.
Depuis que je suis dehors, tout va mal. J'ai de nouveau des problèmes, je n'ai aucune alternative à part la prostitution.
Souffle la jeune femme, bénévole chez Emmaüs depuis sa sortie de prison. Comme son amie, Catalina essaye de prendre les devants pour faciliter sa réinsertion. Et même si c'est difficile, sa vie oscille désormais entre Pôle emploi, où elle suit une formation pour devenir auxiliaire de vie, des cours de français et le bois de Boulogne. Sa seule source de revenus depuis qu'elle est arrivée à Paris en 2007. Elle espère prochainement rendre visite à sa famille en Argentine, qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans. Afida, elle, s'est inscrite à l'auto-école et recherche un emploi. Son stage chez Koukaï ne lui plaît pas vraiment. Fan de voiture, elle s'accroche à son rêve de gamine, devenir pilote de Formule 1.
Donc cet article, c'est un article qui a été publié sur Street Press. Et du coup, bah, c'est un des rares articles qu'on a pu trouver qui était un peu actuel, où il y avait des personnes trans qui... Il y avait la parole des personnes trans qui étaient... Parce que forcément, il y a des articles qui paraissent sur la vie de la justice, l'administration pénitentiaire, mais il y a rarement l'avis des personnes concernées. Et donc là, c'était un des rares articles qu'on a trouvé assez récent qui parlait de... qui donnait en tout cas un peu la parole aux personnes trans.
Tout de suite, on va enchaîner avec un morceau de musique et on va écouter un morceau de Chaka Ponk, My Name is Tame.
Being born and being
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute des Murs ont des oreilles, l'émission anticarcérale, le troisième mercredi de chaque mois sur Radio Kaleidoscope 97 FM. On va continuer à discuter toujours sur les personnes transsexuelles en prison. Donc, l'administration pénitentiaire, quand ils ont des personnes transsexuelles en prison, ils regardent l'état civil qui est sur la carte d'identité de la personne et ils mettent la personne. En tout cas en France ils font ça, ils placent la personne en fonction de l'état civil qui est noté sur la carte d'identité. Et donc du coup, une personne transsexuelle qui est en cours de transition, si sur sa carte d'identité c'est marqué que c'est un mec, elle va être mise dans une prison pour homme. Si sur sa carte d'identité c'est marqué que c'est une femme, il va être mis dans une prison pour femme. Sauf que du coup, souvent ça ne correspond pas au genre social, donc au genre d'apparence de la personne. Et du coup, pour résoudre les problèmes comme ils disent que ça pose, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'ils mettent les personnes en isolement. Ils considèrent que pour leur protection, ils vont mettre les gens en isolement. Donc en isolement, ça veut dire qu'ils ne voient personne, ils sont complètement coupés, les personnes qui sont en isolement sont coupées socialement de toutes les autres personnes. Et normalement, c'est une mesure de punition qui est mise en place là, dans la prison et qui est complètement c'est pas une mesure qui est chouette du tout et qu'en fait on va la critiquer, mais que là en plus du coup elle est mise en place, donc un truc qui est censé être un truc de punition est mis en place pour des personnes qui ont rien fait et qui ont rien demandé à personne, et que là en fait on va la mettre directement en isolement. Et donc l'isolement, ça peut être isolement physique, mais c'est aussi l'interdiction de participer à un certain nombre d'activités, l'interdiction des fois de cantiner et de pouvoir avoir accès à des produits qu'on voudrait, parce que c'est trop compliqué de le mettre en place en isolement. C'est souvent le truc de... c'est trop compliqué pour l'administration pénitentiaire, donc ils vont pas le faire. Ça peut être aussi des refus, donc on disait de vêtements, refus de traitements, par exemple des traitements pour se sevrer de dépendance alcool ou drogue, qui peuvent être refusés, des refus de formation, parce que normalement dans le cadre de la prison, tu peux avoir accès à des formations, ce qui n'est pas toujours le cas, etc. Mais en tout cas, tu peux censé y avoir accès, en général, du coup... t'es en isolement, tu peux pas y avoir accès. Et ensuite, aussi des privations au niveau du traitement spécifique, des traitements pas hormonaux, mais aussi des obligations d'exhibition. Il y a plusieurs personnes qui relataient dans des témoignages le fait que, quand la personne rentre en prison, elle est fouillée à nu, du coup, tout le monde sait comment la personne est constituée en vrai, mais du coup des obligations à repasser devant le directeur de la prison qui dit j'aurais entendu dire que peut-être finalement t'avais un vagin, donc j'aimerais vérifier, donc déshabille-toi, enfin ce genre de choses là, des humiliations, et que ce soit par l'administration pénitentiaire ou par le personnel médical qui est dans la prison, qui est absolument pas formé à justement quoi faire. Et donc là, dans l'article qu'on a eu tout à l'heure, il disait que dans la théorie c'est des personnes volontaires, donc qui viennent parce que dans le quartier spécialement à Fleury, en fait, on se leurre pas sur le discours que les gens ils peuvent avoir, qu'en fait juste, ils ont beau dire que oui, mettre en place, ou bien il y a plusieurs années, il y a une femme trans qui s'est suicidée en prison, et du coup suite à ça, il y avait un peu un texte là, avec des mesures qui étaient sorties, genre on va mettre en place des mesures pour que ça arrive pas, mais en vrai, on sait très bien que l'administration pénitentiaire, leur but principal, c'est pas le bien-être des prisonniers ou des prisonnières, sinon ça se saurait. Et donc du coup, ils sont pas dans ce truc-là. Et du coup, juste par rapport à l'isolement, toujours dans Cruel Unusual, il y a un petit extrait de Yolanda qui parlait justement de ça. Elle disait « Oh, je suis allée en prison. J'ai passé environ un an en isolement, 24 heures sur 24. C'est juste une pièce, rien qu'une pièce. Tu n'as rien d'autre que ton lit, ta fenêtre que tu ne peux pas ouvrir pour aérer. Tu te sens comme un animal. » La pièce est une sorte de grande fenêtre d'où on peut te voir. C'est amusant pour eux de voir cette personne dans cette pièce devenir cinglée. Tout le monde rigolait. Regarde le PD, regarde le mot. Donc voilà, c'était un témoignage de Yolanda par rapport à l'isolement. Et du coup, bien sûr, c'est des conditions qui sont dites là de manière générale c'est intolérable de mettre quelqu'un en isolement, mais en tout cas, c'est quand même des solutions qui sont donc là. À Fleury, ils ont décidé de mettre en place un quartier pour isoler, mais isoler un peu moins. Mais voilà, il n'y a pas de vraies solutions là qui sont apportées et qui, en tout cas, ces solutions ne conviennent pas. Et du coup, on va passer à une lecture d'un autre article qui est toujours dans la même brochure « Femmes trans en prison », qui s'appelle « Que fait-elle dans une prison pour femmes ?» Mais juste avant... Que fait-elle dans une prison pour hommes ?» Et juste avant, je veux juste vous lire... tout à l'heure, on parlait de Chloé... dont il y avait une interview qui a été faite dans Les Murs ont des oreilles. Chloé, à sa libération, il y avait un article de L'Envolée qui parlait d'elle et du coup a écrit à L'Envolée, enfin a fait une réponse à L'Envolée sur justement les conditions de sa sortie de libération et du coup, ça, je vous le dis en deux mots. Donc c'était le 5 mai 2014. Je suis Chloé, ils m'ont libérée depuis plus de 10 jours, et cela manu militari. Ils se sont rendus compte que cela faisait 6 mois, que je devais être libre, et que de ce fait, j'ai donc fait 6 mois de détention arbitraire. Il va de soi que je ne vais pas en rester là. Mon avocat, maître Benoît David, prépare la procédure pour détention arbitraire. C'est inadmissible, ce qui s'est passé. Ils s'aperçoivent 6 mois après qu'ils m'ont oublié. Oui, mais pour me harceler, là, ils n'ont jamais oublié. Bien qu'ils m'ont trouvé un studio d'urgence, je suis à ce jour plus que dans la merde et il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. Minuscule studio, aucune aide, rien de tout, c'est dégage et débrouille-toi. Heureusement que j'ai trouvé un travail. Donc voilà, donc, c'était pour faire sur ce truc-là vraiment de l'administration pénitentiaire, en fait, bah, ils s'en foutent en fait des gens qui sont en prison et du coup ils peuvent aller même jusqu'à garder des gens 6 mois de plus que... Voilà, donc j'ai pas vu de suite par rapport à ce qui a pu se passer derrière, donc j'espère qu'elle aura pu avoir un minimum de gain de cause. Voilà. Donc on va passer juste une petite lecture de Cruel Joël avant la lecture de...
Donc on va encore faire 3 témoignages. Un de Dean Sped, un avocat. Le nombre de transgenres incarcérés est disproportionné. Ce que je veux dire, c'est que le taux d'incarcération des transgenres est disproportionné par rapport à leur nombre et au reste de la population. Et la question est pourquoi ? George Brown, psychiatre, c'est souvent difficile d'accéder et de rester à l'école. Difficile de gagner sa vie, car c'est encore légal de discriminer les transgenres, plus ou moins partout aux États-Unis, sauf quelques exceptions. Donc tu peux perdre un boulot, un logement. Ce n'est pas surprenant que beaucoup de ces personnes se retrouvent marginalisées, incapables de travailler et se tournent vers des activités à dimension criminelle. Ophelia Delanta, prisonnière trans. J'avais 17 ans quand j'ai volé une banque. Ce n'était pas prémédité, c'était plus spontané qu'autre chose. Mon idée était de prendre l'argent et d'aller à San Francisco, et de faire un traitement. Je savais qu'il n'y aurait pas de blessés, car le fusil n'était pas chargé. J'ai été condamnée pour cambriolage de banque. Ma condamnation a été de 67 ans.
Et donc on passe sur le texte qui a été publié dans la brochure « Femme trans en prison ». Que fait-elle dans une prison pour hommes ?
Obligée de marcher à moitié nue, violée, gardée en isolement. La vie d'une prisonnière transgenre à la prison du comté de Sacramento est tout simplement un enfer. Une fois par semaine, les matons de Luisa Espinosa l'obligeaient à marcher sous les moqueries et les rires des hommes qui regardaient avec insistance ses seins et hurlaient des insultes. On la traitait de pédale et on la menaçait de viol. C'était terrible, les détenus et les matons se moquaient de moi, riaient et faisaient des blagues homophobes, dit-elle.
Espinosa est transgenre. Elle est née biologiquement mâle. Mais depuis sa petite enfance, elle s'est toujours considérée comme femme. Elle s'habille, parle et se coiffe comme une femme. Ses cheveux sont maintenant longs et blonds, décolorés, bien qu'ils aient repoussé sur plusieurs centimètres de leur couleur châtain naturelle pendant sa détention en prison. Depuis que les services d'immigration et de naturalisation font tout ce qu'ils peuvent pour l'expulser, et comme vous l'avez sans doute remarqué, Espinosa veut dire qu'on utilise le prénom féminin, elle, quand on parle d'elle.
Il y a 2 ans, elle commence ce qu'on appelle une transition. La transition implique bien plus que l'opération du changement de sexe, au cours de laquelle un pénis est remplacé par un vagin. Espinosa est transsexuelle préopérée, encore à des années de la chirurgie. Elle a adopté un nom et des vêtements féminins. Toutes les transsexuelles sont légalement obligées d'avoir un suivi psychologique pendant au moins 2 ans pour être sûres qu'elles veulent vraiment s'engager dans la transition. Espinosa suit également un traitement d'hormones, femelle, qui aide son corps dans la transition vers le genre qui est le sien depuis longtemps.
Espinosa a quitté le Nicaragua à cause des violations des droits humains et demande asile aux États-Unis. Au Nicaragua, il est illégal d'être gay, lesbienne ou transsexuelle. Il tue les transgenres dans mon pays, témoigne-t-elle. D'après les réclamations déposées par Espinosa et d'autres co-détenus transgenres au Sacramento County of Supervisors, le département du shérif de Sacramento viole aussi régulièrement les droits des transgenres. Ces plaintes sont les précurseurs de poursuites civiles et soulignent les nombreux exemples de discrimination, d'insultes de la part du personnel de la prison et de harcèlement sexuel contre Espinosa et d'autres co-détenus transgenres. Tout ça donne une idée de la vie des transgenres qui sont mis à l'écart et subissent des punitions cruelles et inacceptables dans la prison principale de Sacramento.
Prenons par exemple l'humiliation qu'est la lessive, quand on demande à tous les détenus de la prison des hommes de quitter leur cellule en n'emportant qu'une simple serviette afin d'échanger leurs uniformes orange sale contre un propre. Espinoza est une autre détenue transgenre préopérée, Jackie Tate, ont protesté auprès des autorités de la prison parce qu'on refusait à toutes deux l'utilisation de brassières. La prison fournit régulièrement des brassières aux détenues femmes de la prison, mais Espinoza et Tate sont considérées comme des hommes par les autorités de la prison parce qu'elles ont toutes les deux encore un pénis. Tate déclare qu'un des sergents lui a simplement dit « Tu es un homme, il n'y a aucune raison que tu aies un soutien-gorge ». Elle affirme qu'elle avait pourtant, avec elle, un document médical signé d'une des infirmières de la prison qui demandait à ce qu'un soutien-gorge lui soit donné. Ainsi, pour Spinoza et Tate, le moment de la lessive signifiait être exposé aux moqueries et aux insultes des autres détenus. Ils se mettent à crier « Hé, salope !» ou « Regarde ce type, il a des seins !» déclare Tate. Toutes deux disent que les gardiens se joignent aussi et à plusieurs occasions aux railleries.
Les preuves de la lessive ainsi que d'autres hostilités ont commencé à jouer sur le moral de Tate, dit-elle. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. J'ai commencé à détester le fait d'être transgenre. La plainte déposée par Tate mentionne qu'en dépit du fait qu'elle ait rapporté les nombreuses fois où elle a été harcelée sexuellement et maltraitée, les autorités de la prison ont ignoré ses requêtes. Espinoza et Tate ont toutes les deux raconté que la prison a récemment changé sa politique et leur donne, la plupart du temps, des soutiens-gorge et a arrêté de leur demander de quitter leur cellule torse nu. Toutes deux pensent que c'est à cause de la pression exercée par leur avocat et à cause de l'attention récente portée sur des maltraitances beaucoup plus sérieuses sur des détenus transgenres à l'intérieur de la prison, des maltraitances qui vont bien au-delà des insultes et des railleries. Par exemple, une ancienne détenue transgenre, Kelly McAllister, déclare que des autorités négligentes l'avaient mise dans une cellule avec un autre détenu qui l'a violée. Ceci s'est passé en dépit de ce qu'elle croyait être la politique de la prison, c'est-à-dire de séparer les détenus transgenres du reste de la population. Et Tate déclare, il y a 2 ans, que les autorités avaient rendu plus facile son viol pour un autre détenu.
Dans la grande majorité des prisons de Californie et des États-Unis, les personnes transgenres préopérées sont classées en fonction de leurs organes génitaux. Celles qui sont femmes sont considérées comme particulièrement vulnérables aux insultes et aux viols. Ainsi, la plupart des institutions ont des logements protégés pour les personnes transgenres. Dans certaines prisons, il y a des unités spéciales installées à part et dans lesquelles les détenus transgenres sont incarcérés ensemble. Dans le système carcéral californien, presque toutes les détenues transgenres sont logées dans le centre médical de Californie à Vacaville parce qu'on considère que le statut des transgenres relève du domaine médical.
Espinoza est nerveuse depuis quelques jours. Pendant une récente interview à la prison, à travers l'épaisse vitre du parloir, elle sursautait clairement à chaque fois qu'un gardien passait derrière elle, chose qu'ils font fréquemment. Espinoza quitte le Nicaragua en 1987 après avoir rencontré des membres d'un mouvement naissant pour les droits des gays et des lesbiennes dans ce pays qui devient convaincu qu'elle sera plus heureuse aux États-Unis. Elle vit également pendant 2 ans à New York, où elle est serveuse dans des restaurants, avant de déménager à San Francisco. Mais après un moment, elle arrête de se déclarer au service d'immigration et de naturalisation et arrête de travailler à cause de son statut illégal. Cela fait 12 ans que Espinoza vit illégalement aux États-Unis quand elle est arrêtée et condamnée pour vente de marijuana. Elle ne fait que 45 jours dans la prison de San Francisco, mais son crime attire l'attention des services d'immigration et de naturalisation qui attendent que sa détention à San Francisco soit terminée. Puis elle entre dans le monde obscur de la détention provisoire, pendant que les services d'immigration commencent la procédure de déportation vers son pays d'origine, le Nicaragua.
On dit à Espinoza que les services d'immigration et de naturalisation utilisent 3 prisons dans cette partie du nord de la Californie pour incarcérer les détenus qui sont dans son cas, Oakland, Yuba County et Sacramento. À ce moment-là, Espinoza souffre de problèmes de santé et demande à être envoyée à Sacramento parce qu'elle a entendu que la prise en charge médicale est meilleure. Mais Espinoza dit qu'on s'est très peu occupé d'elle à la prison de Sacramento. Espinoza, qui est séropositif, a aussi porté plainte contre la prison au niveau fédéral pour ne pas lui avoir donné ses médicaments comme il convient. Elle se bat contre sa déportation par l'intermédiaire de la Convention internationale contre la torture. Espinoza déclare qu'elle a été arrêtée plusieurs fois au Nicaragua sous le coup de la loi anti-sodomie de ce pays et qu'elle a été battue, torturée et même une fois violée par la police de Managua. Cependant, la plupart du temps, Espinoza, tout comme Tate, est maintenant gardée presque totalement isolée, enfermée dans sa cellule 23 heures par jour, avec seulement 1 heure passée dehors pour la promenade. Elle est dans ce que les autorités de la prison appellent une séparation totale. ce qui est généralement réservé aux détenus qui ont eu des problèmes disciplinaires. Mais dans le cas de Espinoza et de Tates, leur isolement tient seulement au fait qu'elles sont transgenres. On leur dit que l'isolement total leur est imposé pour leur propre sécurité. Les deux femmes se sont plaintes qu'elles ne peuvent pas parler ni entre elles, ni aux autres détenus, et que, en dehors du fait qu'elles s'ennuient fermes à force d'être confinées dans une cellule toute la journée, en isolement total, elles ont à peine le temps de se doucher et de passer des coups de téléphone. Chris Daley, avec le Transgender Law Center à San Francisco, déclare qu'il n'est même pas sûr que l'isolement total pour les prisonniers transgenres soit légal. Ça n'est pas sérieux. Il s'agit tout simplement de pénaliser quelqu'une, quelqu'un, à cause de son identité transgenre, dit-il.
Une des avocates de Espinoza, Dani Williams, qui est elle-même transgenre, raconte que la politique de la prison de Sacramento à propos de l'incarcération des transgenres va dans le mauvais sens. Je les regarde, je vois des femmes. Réduire la situation à savoir si elles ont un pénis est complètement ridicule, déclare Williams. Elle propose que les détenus qui s'identifient comme des femmes devraient être incarcérés dans la prison du côté des femmes. Quand on lui demande si elle pense que les détenus femmes cisgenres s'opposeraient à une telle mesure, Williams répond que c'est possible, mais qu'une telle politique serait meilleure pour la sécurité des détenus transgenres. Si nous devons faire une erreur, il faudrait mieux que ce soit dans le sens d'une plus grande protection des personnes que ne peuvent se protéger elles-mêmes, dit-elle.
Les défenseureuses des droits des transgenres et des droits des prisonnières en général disent que beaucoup d'institutions correctionnelles ont du mal à protéger les personnes transgenres, gays ou les hommes hétéros des agressions sexuelles, selon l'organisation Stop Prison Rape. 25% des personnes en détention dans les prisons pour hommes sont agressées sexuellement.
Chris Daley, l'avocate du Transgender Law Center, déclare que les statistiques concernant les agressions sexuelles et les maltraitances sur les détenus transgenres sont presque inexistantes, mais que pendant la seule année passée, elle a reçu des douzaines de plaintes. « Je suis stupéfaite par l'intensité des attitudes et de la haine transphobe que je rencontre, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg », dit-elle.
Voilà. Donc ce texte, vous pouvez le retrouver donc dans la brochure « Femmes trans en prison », que vous pouvez trouver sur le site... Infokiosque.net, vous pouvez trouver cette brochure Femmes trans en prison en accès libre de lecture sur l'ordinateur, sur internet. On va refaire trois petits extraits de toujours Cruel and Unusual qui est dans la même brochure. Donc trois extraits de prisonnières trans ou d'anciennes prisonnières trans. Donc Ophelia Delonta. Une fois que les gens savaient qu'une femme était dans la prison, ils venaient tous voir. J'ai été poignardée deux fois par des gens parce que je n'ai pas voulu avoir de relation avec eux. Yolanda Valentin. Les types ici pensent que je devrais les satisfaire sexuellement. Et on se sent tellement faible qu'on n'a rien à redire là-dessus. Et tu ne veux pas que ça se sache, parce que sinon tu fais tes 25 ans au mitard. Alors c'est très dur. Linda Thompson. Elle ressemble à une fille, marche comme une fille, et on se fiche bien de ce qu'elle a en bas. Elle a toujours un anus, et elle a une bouche. Si elle ne veut pas le donner, on va le prendre. Une personne comme ça ne peut rien faire. Ouais, donc il y a plein... Donc tout dans la brochure, si vous voulez, pareil, vous pouvez retrouver, toujours pareil, sur infocus.net ou le film Cruel and Unusual, qui est disponible aussi, enfin, qui n'est pas sur ce site-là, mais que vous pouvez trouver sur YouTube ou bien trouver ailleurs. Et du coup, dans lequel, bah, y a vraiment les interviews des personnes. On s'écoute une petite musique.
On va écouter un morceau de Kerry James, Je représente.
C'est toujours un pour le savoir, deux pour le progrès. Je suis au service des miens, tu le sais, qu'importe le succès, je suis trop vrai. Je ne rappe qu'avec sincérité. Je suis Kerry James et je représente toujours les minorités. Et ce même si ça doit me coûter cher, ma carrière ou ma chair, je représente ceux qui veulent nettoyer au car cher. Je suis décidé jusqu'à ce que la mort me fasse taire. Je défends mes idées, je fais du rap contestataire. Yeah. Je représente les familles nombreuses que le besoin réveille pendant que les tâches sont des berceuses. Le fossé est trop grand entre le peuple et ses dirigeants, car peu d'entre eux ont grandi sans argent. Ce sera toujours les mêmes peines, tant que les mêmes supporteront les mêmes peines, tant que les mêmes perdent ce que les mêmes prennent. Si tu ignores qui je suis, je me présente.
Mon nom est Kerry James, je représente 9-4 mafia qu'un fric.
Je représente
2000 lunes sous Orly.
Je représente
pour tous les frères en son prix.
Je représente
pour ceux issus de la Serbie.
Je représente,
c'est toujours un pour le progrès.
Je représente
jamais, jamais sans le respect.
Je représente
9-4 mafia qu'un fric.
Je représente,
mon nom est Kerry James,
je me présente.
Derrière chaque thug, y'a une femme. Je représente les sœurs qui stressent face à la vie comme des montagnes. Soutiennent un père, un frère ou un mari en prison, fidèles parce qu'elles n'aiment pas qu'une saison. Je représente celles qui élèvent leurs gosses seules, paient le loyer seules, pleurent à se noyer seules. J'aime les voir prendre de l'altitude. Je représente les sœurs qui poursuivent des études, même celles incarcérées, le cœur lacéré, le poing serré. Vous aussi, je vous représente, qu'ils en fassent une polémique, mais je reste intègre, acerbe. Je représente les sœurs qui portent leur hijab. Au fait, ma vérité n'est pas à vendre, c'est à laisser ou à prendre. Toujours pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Avec ou sans victoire de la musique, je me présente. Je suis Kerry James le mélancolique. Je représente 9-4 mafia qu'un fric.
Je représente
2000 lunes sous Orly.
Je représente
pour tous les frères en son prix.
Je représente
pour ceux issus de la Serbie.
Je représente,
c'est toujours un pour le progrès.
Je représente
jamais, jamais sans le respect. 9-4 mafia qu'un prix.
Je représente,
mon nom est Kerry James, je me présente. Je représente les mecs de cité, jamais sans le respect, jamais sans la véracité. Ceux que les clubs interpellent parce qu'ils ont l'aspect du suspect. La misère a un visage, une plaque et une identité. Même ceux qui trichent pour se venger, trafiquent pour manger, refusent de vendre de l'héros et au fond voudraient se ranger. Je n'approuve pas mais comprends, je l'ai fait en montant. Je sais que le crime ne paie pas, donc je représente le changement. Je représente les frères en marche vers la réussite. Leur succès me rend fier, c'est pourquoi je les félicite. Je représente les blacks entrepreneurs comme Dia et tous les banlieusards instruits qui font mentir les médias. C'est ça, hein. Mon rap brise des barrières, s'envole vers toutes celles et ceux qui ont plus d'amour que de rage dans les yeux. Qui que tu sois, si t'as du cœur et des principes, je te représente. Mon nom est Kerry James, je me présente. 9-4 mafia qu'un fric. Pour tous les frères en son prix. Pour ceux issus de la Serbie. C'est toujours un pour le progrès. Jamais, jamais sans le respect. 9-4 mafia qu'un prix. Mon nom est Kerry James. Je me présente. Mon nom est Kerry. Mon nom est Kerry. Mon nom est Kerry. Mon nom est Kerry James. Je me présente.
Je représente, je représente
9-4 mafia qu'un prix.
Je représente, je représente.
Alors, donc, on voulait faire un petit point sur les longues peines aussi. Donc, pour faire un petit point, les longues peines, c'est grosso modo quand on a incarcéré à plus de 5 ans de prison. Et c'est le truc des longues peines, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne représente pas énormément des prisonniers qui sont actuellement en France. Mais c'est vraiment symptomatique de tout ce qui peut se passer en prison. Pour le traitement qui leur est réservé, pour le traitement médiatique qu'il peut y avoir, le traitement des politiques aussi, pour tout un paquet de trucs. C'est depuis l'abolition de la peine de mort en 81, en fait, il y a une explosion des perpétuités et des peines de 30 ans, et enfin, ça a vraiment explosé complètement. Ce qui fait que la France est un des pays où on incarcère le plus longtemps par rapport aux autres pays européens. Et ce qui fait qu'après, on avait même dû construire tout un paquet de prisons exprès pour ça. Donc c'est pour parler des centres, enfin des prisons qui ont été construites il n'y a pas trop longtemps là-dessus, c'est-à-dire qu'on a Condé-sur-Sarthe et Réau, par exemple, qui sont vraiment des QHS géants, enfin, suivant tout ce que peuvent dire les personnes qui y sont passées. Réau, par exemple, en fait, c'est une prison qui a été construite quasiment exclusivement, enfin, pour un détenu en particulier. C'est un détenu à une longue peine, c'est l'archétype du braqueur à la France, enfin, à l'ancienne, qui s'était évadé de Fresnes avec au bazooka, ce genre de truc, enfin bref, du gros truc et tout. Donc ils ont construit Réau quasiment rien que pour lui. Il a des salles qui lui sont quasiment réservées. Et ils ont mis que les gens là-dedans, ainsi qu'à Condé-sur-Sarthe, que les gens que la pénitentiaire n'arrive pas à mater, en fait, dans le reste de ses prisons. Ce qui fait que, quand ils ont des problèmes avec des détenus, en fait, ils les baladent après de prison en prison, histoire de couper tout lien, toute solidarité avec les gens autour d'eux, les familles, les proches et tout. Et après, ils essaient de les envoyer donc, dans les QHS géants. Bon, il se trouve qu'évidemment, les QHS, bon, ça, avant, ça ne marchait pas. Donc, quand c'est une prison énorme, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que celui de voir, c'est Condé-sur-Sarthe, il y a un article qui est pas trop mal fait dessus, qui est du Figaro, Et même Le Figaro trouve que c'est complètement pourri, enfin que ça marche pas, que les surveillants là-bas, ils en peuvent plus, enfin toute personne n'en peut plus, quoi. Et l'autre truc, par contre, c'est le fait des longues peines. Donc ça s'est en fait largement augmenté avec donc, l'abolition de la peine de mort. Et l'autre truc qu'on a rajouté, c'est les années Sarkozy, donc dans les années 2000, début 2000, avec son truc qui était de dès qu'il y avait un fait divers un peu atroce, enfin, dès qu'il y avait un fait divers, il y avait une loi qui sortait tout de suite derrière. Et c'était ce qui fait qu'après, ça a enchaîné sur le... Ça a eu un impact sur les magistrats qui étaient derrière, sur les juges d'application des peines, qui en fait... faisait beaucoup moins facilement sortir les gens qu'avant. Donc, c'est-à-dire que toutes les conditionnels, tous ces trucs-là, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant pour pouvoir sortir de prison, pour pouvoir faire des allers-retours, enfin, commencer à se réintégrer un petit peu, enfin, avoir un peu accès à la vie classique, normale, hors de la prison. Et donc maintenant, en fait, ils n'osent plus faire sortir personne. Ce qui fait qu'en 2000, par exemple, il y avait 1200 longues peines, et en 2013, on en a 2400. Et c'est vraiment un truc qui augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Parce que du coup, ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent et parce qu'ils font de moins en moins sortir les gens. Avec les réductions de peine, ils font sauter les réductions
c'est
de peine.
C'est ça, c'est-à-dire que ça cumule entre... Effectivement, il y a les réductions de peine qui sont en moins. Et en plus de ça, il y a aussi l'autre truc que quand on passe en assise, par exemple, donc on passe devant un jury, je ne sais plus. Et là, pour le coup, en fait, les gens qui sont dans le jury, savent qu'en fait, il y a les réductions de peine qui vont arriver après, enfin au cours de la détention. Ce qui fait qu'ils ont la main encore plus lourde et... ça favorise le fait de filer des peines encore plus lourdes que prévu. Donc il y a tout ça, plus encore l'autre truc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens dans les longues peines qui en fait rentrent pour des peines qui sont pas excessivement, enfin c'est toujours long une peine, mais qui en fait s'en rajoutent à l'intérieur de la détention. Donc là c'est le cas, un des cas les plus symptomatiques là-dedans, c'est Rachid Boubala, je crois, c'est ça son nom, où lui il est rentré pour 3 ans, pour une peine de 3 ans, et là ça va faire une quarantaine d'années qu'il est en prison. Parce qu'à chaque fois, c'est le fait de se rebeller face à la pénitentiaire, donc ça lui en rajoute, ça lui en rajoute, ça lui en rajoute. Et donc, ce qui fait qu'en fait, ça casse complètement les personnes. Et même les magistrats qui actuellement ont du mal en fait, à laisser sortir un peu les gens de prison, eux-mêmes reconnaissent qu'en en fait, au bout de 10 ans, une peine, ça sert vraiment plus à rien, ça sert juste à casser les gens. Enfin, que ça n'a aucune utilité sociale, c'est complètement plombant. Donc par exemple, c'est Abdelhamid Akar qui faisait partie des 10 personnes qui ont signé un appel à Clairvaux. Donc il fait partie des longues peines qui demandaient en fait le rétablissement effectif de la peine de mort. Disant, en tant qu'affaire, au moins, c'est on évite toute hypocrisie, si on veut pas de nous, on veut nous faire crever, autant le dire directement. Et donc lui, il disait, pendant 30 ans, j'avais le cerveau ralenti, coincé dans le temps de la prison. Dehors, on est happé par un flux continu d'informations, on est perdu au milieu d'une vie bouillonnante. Et en fait, il y a plein de témoignages de gens comme ça qui sont sortis de prison, qui étaient complètement paumés dès qu'ils sont sortis, après avoir fait des années et des années de prison. Enfin, il y a un qui racontait, par exemple, le fait de marcher dans la rue, en fait, il marchait pas droit, enfin, il n'arrivait pas à marcher, enfin, il était complètement déséquilibré sur des petits trucs comme ça. Et après, il y en a un autre qui était à Clairvaux, justement, qui lui disait, donc, il a dit ça à son avocate juste avant de mourir, il a dit, voilà, ils m'ont eu, j'aurais fait une vraie perpétuité. Donc lui, il avait été condamné à 30 ans de prison, et il est mort pas longtemps après. Suite justement les problèmes de soins, parce que comme on en parlait juste un petit peu avant, là, c'est les soins en prison, c'est une catastrophe pour y avoir droit. Et théoriquement, pour les longues peines et les gens qui sont... il y a la loi Kouchner qui est sortie, pour pouvoir sortir de prison quand on n'est pas bien, quand on est malade et tout ça. Et en fait, la loi Kouchner a été faite uniquement pour faire sortir, donc ça a été trois types de personnes un peu différentes. Ça a été fait pour sortir Papon, qui est un ancien de l'État, machin. Donc lui, ça permet de le faire sortir tranquillement. Ça a permis de faire sortir Loïc Le Floch-Prigent, qui lui, donc j'ai redemandé à un copain qui m'a dit qu'il avait juste un eczéma de rien du tout. Et donc il est sorti grâce à ça. Alors qu'au même moment, dans la même prison, il y a un type qui s'est jeté d'une coursive, qui s'est écrasé par terre. Lui, ils l'ont pas laissé sortir du tout, quoi. Et ça a permis quand même de faire sortir Joël Aubron, une ancienne d'Action Directe. Parce que là, pour le coup, donc, c'est une détenue politique. Et là, ça l'aurait vraiment pas fait du tout d'avoir une détenue politique qui meurt à l'intérieur de la prison. Parce que la pénitentiaire, le ministère de la Justice, savait le remous que ça pourrait créer derrière. Enfin, qu'au moins, il y avait un comité de soutien qui était derrière, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde en prison actuellement. Et voilà, dans l'ensemble. Ah oui, si, l'autre truc que je vais dire quand même, c'est sur donc, il y a les QHS géants, et en fait, c'est vraiment
QHS,
les...
QHS, juste pour repréciser, c'est les quartiers haute sécurité.
Et c'est vraiment l'enfermement dans l'enfermement, quoi. Et donc, je vais compléter juste là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, les prisons pour les longues peines, on a un extrême, on a ça, et à l'autre extrême, on a par exemple des prisons qui sont présentées comme des prisons modèles, comme Casabianda, qui est en Corse, où c'est une prison où il n'y a pas de barreaux, où les gens sont libres en fait, de leur mouvement à l'intérieur, peuvent gérer leur emploi du temps, tout ça. Pareil, il y a une autre prison à Muret, qui est du côté de Toulouse, où le régime est un peu plus léger. Mais ça fonctionne uniquement parce que c'est la carotte et le bâton. Ça fonctionne uniquement sur la docilité qui est demandée aux prisonniers qui y vont. Parce qu'ils savent que si jamais ils suivent pas exactement les règles, on va les renvoyer dans les autres prisons qu'ils connaissent déjà et ils savent que personne ne veut y retourner. Quoi. Voilà.
Et on clôture l'émission ?
Donc, en parlant des longues peines, lors de notre prochaine émission, nous parlerons de Georges Ibrahim Abdallah, qui est un prisonnier politique, incarcéré en France depuis 1987, donc 32 ans d'incarcération, pour une implication soi-disant dans l'assassinat d'un agent de la CIA et d'un agent des services secrets israéliens, une culpabilité qui n'a jamais été établie formellement. Depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah a fait plusieurs demandes de remise en liberté. Toutes ces demandes de libération ont été rejetées les unes après les autres, et je dirais par une justice de classe aux ordres des gouvernements successifs de gauche comme de droite. Le 21 novembre 2012, le juge d'application des peines a donné un avis favorable pour sa libération, avec un avis d'expulsion de la France vers le Liban, où Georges Ibrahim Abdallah souhaite reprendre son métier d'instituteur. Et chaque demande de libération a été refusée chaque fois que le parquet a fait appel. Donc on se demande si la justice de ce pays est vraiment indépendante. Je terminerai simplement la présentation en reprenant des mots de Georges Ibrahim Abdallah qu'il a prononcé il y a 5 ans devant un comité de soutien venu le soutenir à la prison où il est dans les Pyrénées-Atlantiques. Le seul soutien qu'on peut apporter aux prisonniers politiques, c'est de continuer de lutter contre les rapports de domination et d'exploitation dans lesquels la prison trouve ses racines. Voilà. Donc au mois prochain pour une explication de qui est Georges Ibrahim Abdallah.
Voilà, donc on se retrouve le 20 avril à 19h pour ça. Et du coup, il y a un meeting qui a lieu
à Paris. Le week-end prochain.
Le samedi. Donc le 19 mars.
Le 19 mars, tout à fait, avec tout le collectif de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Et il y aura aussi le FUIQP qui sera présent, donc le Front Uni des Quartiers Populaires. Et du coup, on consacrera notre prochaine émission à ce qui va se passer lors de ce rassemblement, où on prendra du son et on pourra vous diffuser des extraits et vous en
donc,
parler.
Donc, on se retrouve le 20 avril à 19h. Et juste une dernière petite information. Hier, s'est passé le procès de Christine qui a été... Il y a eu plein de reports. Et donc, si vous voulez avoir les informations par rapport à ça, vous pouvez aller voir sur le site « Enfin pisser dans l'herbe ». noblogs.org, où du coup il y a toutes les informations au fur et à mesure qui sont postées dessus. Bonne soirée.
Bonne Salut. Soirée.
Shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na.
was young and so were we dancing